Le journal avec vous, Alexis Demeyer. Bonsoir.
Bonsoir. Donald Trump l'a officialisé en début d'après-midi. Le chef du groupe État islamique est mort. Abu Bakr al-Baghdadi a fait sauter sa ceinture d'explosifs alors que des commandos américains venaient de donner l'assaut dans le nord-ouest de la Syrie. Direction Barcelone aussi dans ce journal où les anti-indépendantistes ont à leur tour défilé cet après-midi. Ils étaient 80 000. Le classico de la Ligue 1 ce soir. Les footballeurs du PSG sont les grands favoris face à l'OM. On l'entend. Le point sur vos conditions de circulation à la fin de ce journal et les prévisions météo de Jean-Michel Golinski.
France Inter.
La confirmation de Donald Trump était attendue depuis cette nuit. Le président américain l'a donc officialisé en début d'après-midi. Abu Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique, est mort. Celui qui avait proclamé le califat de l'État islamique en 2014 se trouvait alors dans un tunnel en cul-de-sac dans la province d'Idlib en Syrie. Selon Donald Trump, cet assaut donné par des commandos américains a reçu le soutien de la Russie, de la Syrie, de la Turquie, des Kurdes et de l'Irak. On écoute un extrait de la conférence de presse du président américain depuis la Maison-Blanche à Washington.
Les États-Unis ont abattu le premier grand terroriste du monde. Ils lui ont rendu justice. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. Il était fondateur et chef de l'organisation État islamique, l'organisation terroriste la plus monstrueuse du monde. Les États-Unis ont cherché Baghdadi pendant de nombreuses années. Le capturer et le tuer a été la priorité de mon administration. Une opération américaine a lancé un raid de nuit dans le nord-ouest de la Syrie et est parvenue à réussir sa mission.
Beaucoup de réactions évidemment ce soir après cette officialisation par Donald Trump de la mort du chef du groupe État islamique. Le combat continue avec nos partenaires de la coalition internationale, vient de déclarer le président Emmanuel Macron. Moscou, de son côté, affirme n'avoir pas pour le moment d'informations fiables d'une, je cite, « énième mort de Baghdadi ». Cette mort est un tournant dans la guerre contre le terrorisme, vient pour sa part de déclarer le président turc Erdogan. Notre envoyé spécial Eric Biegala est en direct de la frontière turco-syrienne.
Oui, dans la liste de ces remerciements auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, Alexis, Donald Trump mentionne deux ennemis intimes, la Turquie et les Kurdes de Syrie, les mêmes Kurdes contre qui la Turquie a lancé son offensive le 9 octobre dernier et qui sont d'ailleurs en train de se replier à 30 km de la frontière turque. Ce sont ces mêmes Kurdes qui auraient, sinon localisé Abu Bakr al-Baghdadi, au moins fourni une partie du renseignement permettant de le faire. Quant aux Turcs, ils ont été informés de l'opération et ont simplement laissé passer les hélicos américains sans leur tirer dessus, a curieusement cru bon de préciser Donald Trump, ajoutant que, le cas échéant, d'éventuels tireurs turcs auraient été de toute façon éliminés. Évidemment, ce passage-là de la conférence de presse du président américain a été soigneusement caviardé sur les médias turcs, de même que ses références à l'aide fournie par les Kurdes. À vrai dire, la Turquie est un peu gênée aux entournures, également par l'endroit même où al-Baghdadi a été déniché. Certes, c'était en territoire syrien, mais à moins de 4 km de la frontière turque, à 7 km du point de passage par où transitent tous les hommes et matériels de l'armée turque, très présente par ailleurs dans ce coin-là de Syrie.
Eric Biegala en direct de la frontière turco-syrienne. Merci Eric. Au moins 80 000 anti-indépendantistes dans les rues de Barcelone cet après-midi. Ils sont venus réaffirmer l'unité de l'Espagne et dire stop à la violence. Hier, 350 000 personnes avaient à nouveau défilé dans les rues de Barcelone pour protester contre l'incarcération de leaders indépendantistes catalans. La manifestation avait ensuite dégénéré dans la soirée. Le reportage de Juliette Jay dans le cortège des anti-indépendants cet après-midi.
Puigdemont en prison, on ne brûle pas Barcelone. Des milliers de manifestants dénoncent les violentes mobilisations indépendantistes et demandent la fin de la révolte contre la sentence. Mais surtout, ils rappellent que la moitié des Catalans ne souhaitent pas l'indépendance. Patricia porte un drapeau espagnol sur le dos.
Soy española y soy catalana.
Je suis espagnole et je suis catalane, mais aujourd'hui je veux que les gens voient qu'en Catalogne, il n'y a pas que des drapeaux indépendantistes. Il y a aussi des drapeaux espagnols à Barcelone. Les manifestations devraient être pacifiques, elles ne devraient pas détruire notre Barcelone, parce que Barcelone, c'est nous tous, les indépendantistes et ceux qui ne le sont pas.
Jordi se sent aussi fortement catalan, mais il est d'accord avec les peines de prison des politiques.
Je pense que la sentence est juste pour les politiques, car avec le référendum, ils ont fait quelque chose. chose de très grave qui aurait pu très mal finir. Ils méritent leur condamnation. Les politiques ont le devoir d'exercer leurs responsabilités devant le peuple, mais ils ne peuvent pas en affronter la moitié.
La manifestation est restée pacifique et a été largement ralliée par les partis d'opposition à quelques jours des élections générales en Espagne. Plus tôt dans la journée, des indépendantistes radicaux ont cependant bloqué des routes pour empêcher l'avancée des cars de manifestants unionistes. Juliette G, Barcelone, France Inter.
François Bayrou réclame un plan B à Paris. Le patron du Modem estime peu convaincante pour le moment la candidature de Benjamin Griveaux à la mairie de Paris. La concurrence au sein de la majorité de la liste menée par Cédric Villani n'arrange rien. Le mathématicien qui a d'ailleurs assuré aujourd'hui n'avoir aucunement l'intention de s'allier avec la sortante Anne Hidalgo. François Bayrou était l'invité de l'émission Questions politiques ce midi sur Inter. Il estime qu'il est encore temps d'agir afin d'éviter la catastrophe dans la capitale.
Pour l'instant, on n'y est pas. Quand je regarde la situation à Paris, j'ai pas le sentiment qu'on soit sur la meilleure voie possible.
Qu'est-ce qu'il faut faire à Paris,
comme je le dis depuis longtemps. Ce qu'il faut, c'est une stratégie de large rassemblement. De l'essentiel de la droite républicaine jusque à la majorité des écologistes. Et en passant par le centre, je pense que cette rivalité-là, elle est pour l'instant stérile. Aucun ne se détache de l'autre et on est plutôt dans une phase de stagnation. Je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à un plan B à Paris.
Est-ce que des personnalités comme Agnès Buzyn ou Jean-Louis Borloo, parce qu'ils symbolisent une forme d'ouverture, est-ce que pour vous ça pourrait être des candidats ?
Oui, mais peut-être y a-t-il d'autres solutions encore ? Je ne sais pas.
Du football, avec la fin ce dimanche de la 11e journée de Ligue 1, Rennes s'est imposé cet après-midi 3-2 face à Toulouse. Saint-Étienne mène actuellement 1-0 contre Amiens. Et à partir de 21h au Parc des Princes à Paris, les leaders de la Ligue 1, les joueurs du PSG, vont recevoir les Marseillais. C'est le classico, un classico Martin Bartoletti que les Parisiens n'ont plus perdu depuis maintenant 8 ans.
Ça représente 19 matchs consécutifs sans défaite pour Paris face à l'OM, 16 victoires et 3 petits matchs nuls. C'est un fossé qui se creuse entre les deux clubs depuis bientôt 10 ans. Si la rivalité existe bien en tribune, l'hégémonie sur le terrain ne fait plus de doute. Et comme pour enlever un peu de pression à ses joueurs, André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, estime que cette rencontre n'est pas la plus importante de la saison pour l'OM. Mais à Paris, le coach Thomas Tuchel, lui, connaît ses classiques.
C'est comme un match en Ligue des Champions, c'est comme un match en demi-finale, finale de Coupe de France. C'est comme ça, c'est un match avec une grande histoire. Pour moi, c'est absolument nécessaire qu'on respecte cette histoire pour notre supporter, parce que c'est très important pour eux. Mais on aime cette ambiance et une atmosphère comme ça. Je suis convaincu que nous sommes prêts pour combattre avec eux.
Un PSGOM qui se jouera sans Neymar, ni Idrissa Gueye blessé, mais avec l'état de forme affiché mardi en Ligue des Champions et son triplé face à Bruges, Kylian Mbappé devrait retrouver sa place de titulaire. De quoi faire trembler encore un peu plus la défense de Marseille.
Martin Bartoletti. Lui, il est du genre éternel. Roger Federer a décroché il y a quelques heures son 103e titre en carrière. Le tennisman suisse s'est imposé en finale du tournoi de Bâle, sa ville natale. C'est d'ailleurs la 10e fois que Federer remporte ce tournoi. À 18h08 sur France Inter, Manon Vautier-Chollet nous attend au PC Mobilité. Manon, une voiture en feu sur la 8.
Oui, en direction d'Aix-en-Provence. La voiture se trouve sur le côté de la route, 6 km après la sortie 36. Et le trafic est très chargé à cet endroit avec plusieurs dizaines de minutes de ralentissement. Sur la 10, maintenant, le trafic est quasiment à l'arrêt en direction de Paris au niveau de la jonction avec la 71. Donc, c'est à hauteur de la ville de Beaugency. Et puis, en région parisienne, le trafic se charge en ce moment sur la 6 A et B en direction du périphérique parisien. Il faut compter une demi-heure de trajet depuis la ville de Vissou pour rejoindre les portes d'Orléans et d'Italie. Ça se charge aussi sur la 13 avec une circulation très dense depuis le péage de Vaucresson jusqu'à la porte Maillot.
Manon Vautier-Chollet, on vous retrouve dans le journal de 19h. Le temps de demain lundi.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
La météo est signée Jean-Michel Golinski.
Un lundi frais du nord de la Loire au quart nord-est avec une moyenne de 11 degrés en cours d'après-midi et possiblement des gelées blanches au nord de la Seine en fin de nuit. L'ambiance sera plus douce dans la partie sud, entre 16 et 24 degrés en général, avec par exemple 16 à Lyon, 17 à Limoges, 20 de Perpignan à Marseille, 22 à Toulouse et 24 à Ajaccio. Le ciel sera maussade sur la partie centrale du pays, avec des pluies faibles entre la Bretagne, le sud du bassin parisien, l'Alsace, le Dauphiné, le Poitou-Charentes, avec le soir à renforcement des précipitations par la pointe ouest. De part et d'autre, temps sec, mais néanmoins souvent voilé par des nuages d'altitude, plus dense sur les régions méridionales avec toujours, surtout le matin, des entrées maritimes dans le golfe du Lion.